Irak s'étend sur une zone géographique que l'on appelait la Mésopotamie, un mot qui signifie le territoire entre deux fleuves. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau manque et la vie des 25 millions d'Irakiens qui en dépendent sont mises en danger. Depuis plusieurs années, le niveau des pluies n'a cessé de baisser. La situation est particulièrement grave depuis 2 ans, puisqu'on parle de sécheresse. En 30 ans, les surfaces cultivables ont diminué d'environ 40%. Le problème, c'est qu'elles font vivre 30% des Irakiens. Et le désert, qui recouvre déjà 60% du territoire, gagne du terrain. Si les choses ne changent pas rapidement, la sécurité alimentaire du pays pourrait se trouver menacée. Selon les Nations Unies, en effet, près d'1 million d'Irakiens vivent déjà dans une insécurité alimentaire permanente et plus de 6 millions d'autres dépendent des distributions gouvernementales de riz, farine, sucre et huile. L'Irak en manque d'eau, c'est un reportage d'Edith Bouvier.
L'Irak manque d'eau et la situation pourrait bientôt devenir un des problèmes majeurs du pays. Pourtant, deux fleuves mythiques le traversent, le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui ici, l'eau coûte plus cher que le pétrole. Un litre d'eau minérale importée de Turquie coûte en effet 50 centimes de dollars, alors que 1 litre de pétrole irakien ne vaut même pas 25 centimes. C'est l'identité même de l'Irak qui pourrait être remise en cause. Le pays était récemment encore le premier exportateur de dattes au monde et fournissait de l'orge aux fabricants de bière allemands. Mais qu'en sera-t-il demain ? Avec la sécheresse, la situation ne fait qu'empirer. Près de 700 000 hectares de terres agricoles sont aujourd'hui en danger. La majorité de ces terres est située au nord du pays, dans la région du Kurdistan autonome. Sur les bords du Tigre, près de Mossoul, certains agriculteurs ont vu le niveau d'eau diminuer de façon inquiétante ces dernières années. Fazen Salah a toujours vécu ici avec sa famille.
Je produis des légumes et j'élève un peu de bétail. Jusque-là, ça suffisait pour faire vivre ma famille. Mais maintenant, on a survécu aux terreurs de Saddam Hussein, à la guerre civile, et on craquerait à cause du manque d'eau. Tout ça parce que la Turquie construit toujours plus de barrages et nous assèche à petit feu. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et c'est le même problème pour toute la communauté.
La Turquie et la Syrie sont montrées du doigt par les autorités irakiennes. Il y a au moins 7 barrages sur l'Euphrate chez ses deux voisins. Et l'Irak étant en aval, le pays est dépendant de leur politique. Depuis 30 ans, Ankara a lancé un grand projet d'irrigation pour faire de l'Anatolie du Sud son grenier à grains. Sauf que du coup, ce sont les terres d'Irak qui en pâtissent. Alors, régulièrement, Bagdad demande à son voisin d'ouvrir davantage ses barrages et de doubler au moins le débit des fleuves. La réponse de la Turquie est sans appel. Si l'Irak vend son or noir, il n'y a pas de raison qu'Ankara ne puisse pas faire commerce de son or blanc. Direction donc le désert des champs pétroliers de Taktak, au cœur de la région autonome du nord du pays. 40 000 barils sortent des puits chaque jour. L'Irak détient actuellement, derrière l'Arabie Saoudite et l'Iran, les 3e réserves d'or noir du monde. Peut-être même les premières selon certains. Depuis juillet dernier, une 20aine de compagnies étrangères ont signé des accords pour s'implanter dans le pays. Pour obtenir leur droit d'entrée, elles ont accepté de financer la construction d'écoles, la rénovation des infrastructures autour de leur site et surtout d'approvisionner en eau les villages dont ils utilisent les terres. Une manne qui ne profite qu'à certains villages, dans un périmètre restreint. Il suffit de s'écarter en effet de quelques kilomètres à peine de ces zones pour accéder à des villages totalement démunis. Dans ce cas, il reste heureusement encore les ONG internationales. À Segredkan, par exemple, à quelques kilomètres à peine des champs pétrolifères de Taktak, la Croix-Rouge internationale a mis en place depuis avril dernier la première station de pompage et de filtrage d'eau. Visite de la structure avec Kawa Tahir, un des ingénieurs à l'origine du projet.
The water is coming from
the well.
You see, the water is pumped.
L'eau vient de la rivière, vous voyez, à 100 mètres. Elle est récupérée et stockée là, dans ce puits, puis transportée un peu plus loin jusqu'à la station de filtrage. L'eau passe par plusieurs filtres, tout est naturel. C'est ça qui la rend potable et buvable. Ensuite, on utilise encore des pompes à moteur pour envoyer l'eau dans un pipeline vers le village qui est situé un peu plus haut. C'est un système très moderne que nous développons ici. Avant cela, les habitants du village buvaient l'eau du puits, mais celui-ci a été complètement asséché à cause du manque de pluie. Et de toute façon, l'eau n'était pas bonne à la consommation. Pas propre et trop salée. Alors il fallait recourir au camion pour amener de l'eau jusqu'ici, sauf que l'eau venait toujours de la rivière et n'était pas traitée.
Najib Ereder Amedami habite avec toute sa famille un peu plus haut dans le village. Sa maison, construite il y a à peine 3 ans, n'est pourtant toujours pas finie. Seul luxe, l'indispensable climatisation pour l'été. Et maintenant, un robinet dans la cour derrière la maison. Un geste simple et un changement qui l'émerveille à chaque fois.
Regardez, j'ouvre le robinet et j'ai de l'eau potable à la maison. Merci. Non mais vraiment, on n'a jamais vu ça ici. Chez ma cousine en ville, j'avais déjà vu ça. Mais pas ici.
Son mari, Dashti Abdullah, travaille justement à la station d'eau.
Depuis Saddam Hussein, les conduites d'eau n'ont pas été réparées, ni même entretenues, quand elles existaient. Ensuite, la guerre a détruit ce qui restait, et nous avons été contraints de s'habituer. On buvait l'eau du puits, mais on savait qu'elle n'était pas bonne. Maintenant, notre vie a changé. En quelques mois, 80% du système a été amélioré pour toute la zone, et pour notre village, c'est presque 100%.
Selon certains experts, un peu moins de 70% des Irakiens auraient accès à l'eau potable aujourd'hui. Un chiffre en hausse depuis la guerre de 2003, qui s'explique notamment par l'exode rural massif ces dernières années. Faute de trouver du travail et des conditions de vie décentes, de plus en plus d'Irakiens viennent s'entasser dans les villes. Najib Ereder, elle, est restée dans son village, faute d'argent pour pouvoir partir, même si la situation était devenue vraiment difficile.
Avant, on était approvisionné par camion. On n'avait pas l'eau à la maison. C'était très compliqué. Il fallait aller chercher l'eau à la rivière. Ou alors attendre la distribution d'eau. Mais les camions ne passaient qu'une seule fois par semaine. Il y avait aussi des puits, mais l'eau était de mauvaise qualité. Trop salée et beaucoup de problèmes. Même pour la cuisine, c'était pas bon. C'était dangereux.
Plus bas dans le village, une dizaine de personnes fait la queue devant le dispensaire. Sangar Ahmad Choukour est médecin. Pour lui, jusque-là, la situation était quasiment ingérable. Beaucoup trop de patients et surtout des maladies graves bien trop chères à soigner dans un petit centre comme le sien.
Depuis quelques mois, c'est vrai que les conditions de santé de la population se sont grandement améliorées. Jusque-là, beaucoup souffraient de maladies comme le choléra ou l'hépatite E. Des contaminations liées en grande partie à l'absorption d'eau souillée et non potable. Le manque d'eau potable, c'est une menace réelle pour la santé publique des habitants. Ça s'est amélioré, mais ça n'est pas encore parfait. Partout dans le pays, les égouts continuent de s'écouler dans les fleuves et dans les rivières et personne ne prend soin de l'eau.
« Juste derrière l'unité de stockage de la Croix-Rouge, trois hommes remplissent la citerne d'eau d'un camion. Ils partent, comme presque tous les jours, approvisionner les populations autour de Segredkan. Mama Amar est le chef du village d'Oumar Gumbat. Il est né ici et ne se voit pas quitter sa maison. Mais chaque jour, il attend l'arrivée du poids lourd avec appréhension.
On sait bien que cela ne pourra pas durer tout le temps. Pour l'instant, il suffit qu'on en fasse la demande et le camion vient nous amener autant d'eau qu'on veut, autant qu'on en a besoin. Mais cela coûte très cher. Alors forcément, on sait tous qu'un jour, le gouvernement arrêtera cette aide. Pourtant, c'est vital pour nous. Alors peut-être qu'un jour, il nous faudra aller habiter à Segredkan ou à Taktak dans les grandes villes, à côté d'ici. Cet exode a déjà commencé. Avant, notre village comptait environ 400 familles. Et regardez combien nous sommes aujourd'hui.
Au milieu de ce désert, la mise en place de cette station d'eau potable a représenté une véritable bouffée d'air pour tous les habitants et surtout une perspective d'emploi, enfin pour certains. C'est le cas de Karim Mazen, âgé d'une trentaine d'années.
J'ai fait des études, mais jusque-là, ici, il n'y avait pas vraiment de boulot. C'est une véritable opportunité pour nous, l'arrivée de cette station d'eau. Cela nous a apporté à la fois l'eau potable à la maison et de l'emploi pour quelques-uns d'entre nous. Pour l'instant, nous sommes 8 à travailler sur place, et d'ici peu, le CICR nous confiera la gestion du site. Alors, il faudra en prendre soin et se former pour la réparer, l'entretenir. Avant, on n'avait pas de choix. On était agriculteur ou on partait. Maintenant, on peut faire des études et rester.
Dans cette zone désertique, la vie était devenue quasiment impossible. Ahmed Mohamed, le maire de Segredkan, voyait le mécontentement gronder dans la population sans pouvoir faire quoi que ce soit pour changer les choses.
La zone a beaucoup souffert. D'abord sous Saddam Hussein et pendant sa campagne pour exterminer tous les Kurdes. C'est ce qu'on appelle l'Anfal. Plus tard, c'est ici que se sont affrontées les armées du PDK et de l'UPK. Depuis 20 ans, en fait, la région est complètement dévastée. Nous ne recevons pas assez d'aide du gouvernement. Il faudrait remettre sur pied l'économie locale. Mais que proposer aux habitants? De devenir agriculteurs? Ils ne peuvent plus survivre, en tout cas jusqu'à l'arrivée de l'eau courante dans le village. Maintenant, tout le monde reprend espoir. Les habitants vont peut-être arrêter de partir.
Avec la mise en place de la station de pompage, les agriculteurs aussi ont retrouvé le moral. Asiba Ahmad et son mari possèdent quelques lopins à quelques mètres de là. En ce moment, ils arrosent justement leurs terres et épandent un peu d'engrais pour préparer les prochaines récoltes.
On cultive des concombres, quelques légumes. Depuis 2 ans, on regarde le niveau d'eau baisser avec angoisse. Mais là, cette nouvelle source d'eau, c'est miraculeux. En plus, il n'y a pas de produits chimiques, donc la terre n'est pas salie. Alors on reprend espoir. Il ne faut pas que les agriculteurs meurent. On est déjà plus très nombreux dans le pays. Presque tout ce qu'on mange ici vient de Turquie ou d'Iran. Mais nous, on n'a rien d'autre que nos terres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?
Aujourd'hui, il n'y a pas que la politique qui est en cause. Les comportements des habitants et leur gaspillage posent problème. Les Irakiens ont pris l'habitude de nettoyer leurs maisons et leurs voitures à grandes eaux tous les jours. Une importante quantité est gaspillée alors sans que personne ne s'en inquiète. Le problème, c'est que l'eau ne coûte presque rien. Chaque maison paye 1 dollar seulement par mois, sans limite de consommation. Pour changer les comportements, il faudrait installer des compteurs et condamner les habitants à des amendes en cas d'utilisation excessive. Depuis quelques mois, 600 compteurs d'eau ont été installés à Questane, dans le district d'Erbil. On en attend les premiers effets, mais c'est vrai que pour l'instant, l'eau coule beaucoup, sans que la population ait vraiment conscience de la crise à venir.
Edith Bouvier vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Edith.
Bonjour.
Alors, nous venons d'écouter ce reportage que vous avez réalisé l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage ?
Bah alors d'abord, quand on circule dans les villes, ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que le manque d'eau est chronique en Irak. Il n'est pas rare, par exemple, de voir à midi et sous 50 degrés tous les systèmes d'arrosage ouverts, l'eau qui déborde sur la chaussée. En fait, c'est que ces dernières années, les tempêtes de sable sont devenues de plus en plus fréquentes dans le pays et les Irakiens ont pris l'habitude de mouiller les routes tous les jours, de laver leurs voitures régulièrement et leurs maisons à grandes eaux. C'est un cercle vicieux. Plus le territoire est aride et plus les tempêtes de sable sont nombreuses et donc plus les gens gaspillent de l'eau pour nettoyer le sable qui s'infiltre et s'accumule partout. Il faut savoir que depuis 2005, 100 000 Irakiens dans le nord du pays ont dû quitter leur foyer à cause du désert qui avance. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'UNESCO et selon cette organisation de l'ONU, 36 000 autres personnes sont encore menacées.
Alors aujourd'hui, est-ce que les Irakiens ont pris conscience de la menace qui pèse sur leur avenir ?
Les autorités semblent en tout cas plus sensibles au problème. Depuis quelques mois, l'Irak a décidé de mettre en place un plan de gestion des ressources en eau dans le pays. Mais visiblement, cela s'avère encore plus compliqué à réaliser que l'instauration d'une loi sur le pétrole. Le problème, c'est que l'Irak dépend de ses voisins, la Turquie et la Syrie, et qu'il n'y a aucune loi sur le partage des ressources hydrauliques qui clarifie les rapports entre ces deux pays. Conséquence, l'Irak est aujourd'hui dans l'incapacité d'anticiper et d'augmenter ses réserves d'eau. La sécheresse dure et les pluies d'hiver, attendues début octobre, ne sont toujours pas arrivées. Je vous le rappelle qu'en 20 ans, les niveaux du Tigre et de l'Euphrate ont diminué en moyenne de 40% et les réserves totales accumulées grâce aux 6 barrages irakiens ont été divisées par 4 en 3 ans seulement pour atteindre tout juste 10 milliards de mètres cubes.
Mais le gouvernement est-il le seul à avoir pris conscience des dangers qu'implique la baisse de ses ressources en eau ?
Le gouvernement irakien tente, on l'a vu, de mettre en place un système de régulation. Mais encore faut-il que la population prenne vraiment conscience de la situation. Et pour cela, il faudrait que l'eau ait un coût. En attendant sur place, plusieurs organisations internationales tentent de pallier au plus pressé. La station de pompage et de filtrage du CICR que l'on a visité dans le reportage est un modèle pour le moment unique dans le pays. Aujourd'hui, les 3000 habitants de Segredkan et les 7000 habitants des villages environnants ont enfin accès à l'eau potable, un luxe inimaginable il y a de cela tout juste quelques mois. L'an prochain, une autre station devrait être mise en place à quelques kilomètres de là. Jusque-là, le gouvernement s'était contenté de forer des puits, mais aujourd'hui, les nappes souterraines sont tellement asséchées ou sur le point de l'être qu'il ne peut plus faire comme cela.
Alors, dans votre reportage, vous évoquez des relations difficiles entre l'Irak et ses voisins. Où est-ce qu'on en est sur cette question ?
Les positions sont toujours fermes et semblent même inconciliables. Personne ne semble vouloir céder. D'un côté, donc, il y a la Turquie, le puissant voisin du Nord, qui a annoncé il y a un an son intention de construire un nouveau barrage sur le Tigre dans le cadre du projet baptisé GAP, qui date d'il y a 70 ans à peu près. Un projet qui est présenté comme une solution au sous-développement de la partie kurde du pays et qui pourrait être une réponse économique aux demandes d'autodétermination des militants du PKK. Mais les partenaires européens qui avaient promis de mettre la main à la poche pour aider à son financement pour ce projet se sont retirés finalement. Ils ont notamment fait valoir des problèmes environnementaux et culturels. L'Irak a crié victoire, mais peut-être un petit peu trop vite, car la Turquie tient toujours à son projet.
Comment réagit-on côté irakien ?
Alors, pour Bagdad, le Tigre et l'Euphrate doivent être considérés comme des fleuves internationaux, et donc sur lesquels l'Irak a des droits, au même titre que les autres pays traversés. Un point de vue que partage en partie la Syrie, Damas exige également le respect des droits acquis et l'interdiction de tout aménagement qui modifierait le débit des fleuves sans l'accord des pays riverains.
Alors, depuis 30 ans, les réunions interministérielles se succèdent donc entre les responsables de ces trois pays, mais sans aucune avancée concrète.
Et oui, le problème, en effet, c'est que pour Ankara, pas de négociation possible. C'est la mauvaise gestion de l'eau qui cause la situation actuelle de pénurie. Elle appelle donc l'Irak à prendre ses responsabilités et à mettre en place des techniques d'irrigation de terres moins gourmandes en eau. On est donc encore très, mais alors vraiment très, 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 très loin d'un accord multilatéral sur des quotas de répartition de ces eaux. En attendant, l'Irak est de plus en plus dépendant de la Turquie, dépendant donc de son bon vouloir en matière d'ouverture des barrages pour irriguer ses terres cultivables et nourrir sa population, mais aussi dépendant des produits alimentaires que le pays est contraint d'acheter pour survivre. Le pays importe aujourd'hui 80% de son alimentation.
Ce qui est paradoxal, Edith, c'est que l'espoir pour l'Irak pourrait venir en partie de l'Iran.
Et oui, depuis la guerre Iran-Irak, les deux ennemis se sont enfin rapprochés, surtout depuis la chute de Saddam Hussein et l'arrivée au pouvoir en Irak de chiites proches des autorités iraniennes. Selon un membre du conseil provincial de Bassora, les Iraniens se sont engagés à livrer environ 650 000 litres d'eau potable tous les deux jours. On ne sait pas encore jusqu'à quand. En tout cas, la première livraison est arrivée il y a deux semaines et la deuxième lundi dernier au port de Fao dans le golfe Persique. C'est bien, mais pas suffisant pour sauver tout le sud du pays. L'Irak a donc également demandé à l'Iran de laisser une plus grande quantité d'eau de la rivière Karoun s'écouler vers l'Irak. Mais en vain, il semblerait que la bonne volonté apparente de l'Iran s'arrête là.
Alors dans ce contexte, l'avenir des deux fleuves mythiques semble bien compromis.
Eh oui, après l'or noir qui fut la richesse du XXe siècle et l'objet d'une multitude de conflits, on peut se demander aujourd'hui si l'or bleu ne va pas déclencher d'autres guerres dans la région. L'Euphrate est en effet un fleuve hautement symbolique, étant donné son rôle dans la naissance de la civilisation. Selon la Bible, son assèchement serait même le signe de l'arrivée de la fin des temps. En attendant, les conséquences de cette désertification sont bien visibles sur le terrain. Les fermes qui longent ce fleuve sont laissées à l'abandon, les pêcheurs ne vivent plus de leur travail et les villages se vident au rythme de l'exode rural qui pousse les fermiers à aller chercher du travail dans les villes et grossir les banlieues déshéritées.
Bon, affaire à suivre. Vous repartez bientôt, je crois, en Irak pour suivre un petit peu toutes ces questions.
Dans quelques semaines, si les élections se maintiennent, mais il faut savoir qu'après l'attentat de dimanche dernier, le code électoral n'a toujours pas été validé et les autorités du pays remettent en cause la tenue de ces élections. En attendant, la semaine prochaine, peut-être un avenir pour l'Irak avec la tenue à Berlin d'une réunion. L'Irak évalue à 400 milliards les besoins de recrutement.
Merci Edith Bouvier. Et maintenant, comme tous les vendredis, nous finissons la semaine avec le billet de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature.
C'est pas du vent.
Bonjour Sylvia Ritosa.
Bonjour Arnaud.
Alors, sur le thème comment concilier autorités traditionnelles et administratives pour protéger des dizaines de milliers d'hectares de forêt, vous avez une histoire.
Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui se passe à Tobé, au centre du Bénin. C'est là qu'un Français, Alain Ratier, depuis très longtemps a élu son domicile, et a créé l'association FAT, la ferme apicole de Tobé, pour protéger 12 000 hectares de forêt autour du village de Tobé et 8 000 hectares dans la forêt d'Adjiro, qui est juste à côté, dans le mont Koufé. Pendant 25 ans, les chasseurs Nago, les autorités villageoises traditionnelles, comme le roi des Bontés, les chasseurs, les tradipraticiens et aussi les prêtres du FAT, donc le rite vaudou, ils se sont réunis au sein d'une association à Guéchab et ont appris à connaître ce monsieur, à l'apprécier, à lui faire confiance pour faire revenir à nouveau la faune dans leur forêt désertée, de façon à pouvoir perpétrer leur tradition de chasse. En 2007, ils ont signé un contrat de gestion inspiré des lois traditionnelles, des rites et des interdits de la forêt. Et ils se sont mis d'accord pour protéger la zone, faire respecter les lois traditionnelles administratives et gérer les ressources, donc les plantes médicinales, la petite faune, en y faisant aussi de l'apiculture.
Mais concrètement, comment ils ont fait ?
Donc l'association a creusé des pistes, a créé un point d'eau pour faire abreuver le bétail, a aménagé l'espace pour les surveillants qui doivent protéger la forêt. Et l'association a installé aussi des ruches et donc a formé des apiculteurs. Une centaine d'apiculteurs ont produit du miel entre mars et avril de 2008 qui a été vendu sur le marché local. Donc, d'un commun accord avec les populations, les champs de culture ont été déplacés, les charbonniers ont arrêté l'exploitation et on a laissé aux transhumants la possibilité de continuer à utiliser pour leur bétail une partie de la forêt à l'intérieur de la zone protégée.
Et comment cette initiative a été reçue localement ?
Nous avons rencontré les rois des Bontés. Donc, c'est un roi qui règle les conflits sociaux. Tous les contentieux, à chaque fois, il y a un contentieux entre les familles, le couple, sur le partage des terres, question des mariages. Et qui reste, lui, à l'écart du système étatique, administratif et politique. Le roi des Bontés, il était d'accord avec le comité des chasseurs l'année dernière. Donc, il nous a reçus assis sur son trône, couronné, en empoignant le sceptre. Et nous a dit qu'il était convaincu que le retour à la gestion traditionnelle assurera le soutien de la population à la protection de ses forêts, même si elle n'offre pas de retombées économiques importantes. Donc depuis 2008, FAT a aménagé 6000 hectares supplémentaires de la forêt de Djabalo, qui est contiguë à l'autre forêt d'Adjiro, dont je viens de parler, avec une nouvelle contribution du Fonds français pour l'environnement mondial et son programme à petite initiative.
Merci Sylvia, à la semaine prochaine. C'est pas du vent, vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. À demain, à lundi, pardon, même planète, même heure.